Donc, c'est un grand plaisir pour moi d'être parmi vous. Ma femme n'a pas pu m'accompagner parce que nous avions une douzaine de visites à midi pour le repas. Mais on avait du soleil quand je me suis levé ce matin. Mais le ciel commençait à changer. Je me dis, je viens à Genève, je prends mon imper et mon parapluie avec moi. Je crois que j'ai bien fait. Alors, nous allons étudier le livre de Job. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans le livre de Job. Les psaumes, vous savez où c'est, mais juste avant les psaumes, il y a le livre de Job. On fera plusieurs lectures dans le livre de Job, et pour les autres lectures, je les lirai d'une façon assez libre. Mais j'aimerais que pour le livre de Job, un livre qui est quand même mal connu, vous savez, il y a cette réputation, Nouveau Testament égale la grâce, Ancien Testament égale la loi, et je vais vous montrer que combien dans l'Ancien Testament, à l'époque de Job, la grâce de Dieu était déjà à l'œuvre. Je vous invite, Job, premier chapitre, qui sera l'introduction, à lire les trois premiers versets. Il y avait dans le pays d'Uth, un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Donc un homme qui sortait de l'ordinaire, qui sortait du lot, ce que j'espère pour chacun de vous ce matin. Pourquoi ? Il craignait Dieu. Si on craint Dieu, il y a des conséquences pratiques et directes. Il se détournait du mal. Voilà qui était Job. Je n'ai pas de photo de famille. Je n'avais pas trouvé dans mes archives. Alors, excusez-moi pour le rétroprojecteur. Il naquit 7 fils et 3 filles. Ça aurait fait une jolie photo. Vous êtes d'accord, papa, maman, 10 enfants. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus éminent de tous les fils de l'Orient. Je crois que le parking souterrain ici aurait été trop petit pour contenir tout le cheptel de Job. Ça nous montre la dimension de son cheptel. Si on s'arrêtait là à l'histoire de Job, ferait de nous un peu des envieux. On aimerait tous, d'un côté, être un peu des Job, avoir une famille nombreuse, avoir des moyens pour vivre, où on ne doit pas lutter contre une perte d'emploi, un appartement que l'on doit quitter faute de moyens, etc. Mais vous allez voir que le livre de Job est un livre extraordinaire. Premièrement, c'est un des plus grands livres de l'Ancien Testament où il est question d'un homme, Job, 42 chapitres. Il est probablement aussi un des livres les plus anciens de l'Ancien Testament. Et je vais essayer d'expliquer la raison de tout ça. La raison est toute simple, c'est qu'il est difficile de dater l'époque de ce livre, mais on sait qu'il se situe dans une période patriarcale. Et vu l'absence de toute allusion à l'alliance abrahamique et aux 4 Israélites, on peut supposer qu'il vivait déjà avant Abraham, tout simplement. Donc avant le choix d'un peuple, le peuple d'Israël. Donc le pays d'Uth, vous savez, c'est un pays où on en parle presque tous les jours. On a ces images de Syrie qui sont horribles. Une terre fertile, donc dans ce croissant du Moyen-Orient, entre Damas et Édom, un plateau très riche pour l'agriculture, fertile. Donc un terrain païen. Rien que sur ce point, ce livre est très important pour nous, car Job, l'élu de Dieu, n'est pas un juif. C'est un homme des nations, comme la majorité d'entre nous ce matin, comme le fut aussi Noé. N'oubliez pas, Noé n'était pas juif, il était un homme des nations. Mais un homme particulier. Et d'un côté, Paul aurait pu dire de Job ceci. Et c'est un homme circoncis, d'une circoncision que la main d'un homme n'a pas faite, mais la circoncision de Christ, de la main de Dieu. Donc, entre nous, un véritable juif. Un homme qui a connu ce chemin de la grâce de Dieu, qui a appris à se dépouiller face à sa nature pécheresse, pour saisir la grâce que Dieu lui offrait et pour enlever tout ce qui pouvait entraîner sa communion avec Dieu. Donc Job est un païen, vivant dans un pays païen, au sein, d'une culture païenne, sans pourtant être pollué par elle. Et je crois que c'est la richesse de ce livre, de voir comment Job a été préservé de cette pollution qui nous environne tous. Il était un homme intègre et droit, il craignait Dieu, il se détournait du mal. Mais n'est-ce pas le programme de Jésus-Christ pour tous ceux d'entre nous qui se réclamons de la grâce de Dieu, qu'un jour Dieu nous a fait grâce, il a fait de nous ses enfants, il a donné une orientation nouvelle à notre vie. Ne sommes-nous pas le sel de la terre, par exemple? Une autre précision, c'est que Job a bel et bien existé. Et vous savez, Dieu dans sa providence, il est merveilleux. Beaucoup voient de l'histoire de Job, une histoire inventée, ils pourraient essayer d'expliquer une chose ou l'autre. Mais c'est le prophète Ézéchiel qui deux fois dans son livre parle de Job, au chapitre 14 et au chapitre 20, en disant simplement ceci. C'est une très courte phrase, mais qui est très significative. S'il s'y trouve Noé, Daniel et Job, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, eux, ils auront la vie sauve à cause de leur droiture. Donc les prophètes ont reconnu l'authenticité du livre de Job, ce qui est très important quand nous méditons ce livre. Personnellement, j'appelle toujours le livre de Job, et je crois que je suis un peu provocateur quand je dis cela, l'évangile de Jésus-Christ selon saint Job, ou selon Job, nous sommes dans le milieu évangélique, supprimons le saint. Dans l'Église catholique, on ne lit pas l'Évangile. On lit l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, saint Marc, saint Jean, saint Luc. Maintenant, ce matin, selon Job. Parce que je crois que dans l'Évangile, dans Job, ce qui est extraordinaire, c'est de retrouver toutes les racines de l'Évangile. Où Dieu, dans sa révélation, qui est une révélation qui débute, il n'a pas grand-chose. C'est le début de quelque chose. Mais déjà, il y a toute la pureté de l'évangile que nous retrouvons chez Job. Et ce matin, nous allons essayer de voir brièvement comment Job remplissait son rôle de père, et je crois qu'il y a beaucoup de pères parmi nous, son rôle d'époux, son rôle de patron, de citoyen chrétien, et aussi une petite leçon pour les grands-pères. Et malheureusement, pour les mamans, j'aurais pas grand-chose, parce que ce que Job nous dit sur son épouse n'est pas dans sa gloire. Mais vous verrez combien cela est riche pour nous, maris, encore aujourd'hui. L'évangile, Jacques, dans son livre, mentionne Job. Par exemple, dans Jacques, chapitre 5, verset 11, il dit ceci. Jacques en parle pour nous encourager, pour voir en Job un modèle de l'encouragement. Voici, nous disons, bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, qu'on pourrait traduire de la constance de Job, de l'endurance de Job, de la persévérance de Job, de la fermeté de Job, un vrai esprit olympique que Job avait. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui a accordée. Donc, dans Jacques, chapitre 5. En Belgique, quand j'étais gosse, il y avait une publicité de cigarettes. Je la vois toujours devant mes yeux. C'était « Visez juste, visez Visa ». Et Visa, c'est la marque de cigarettes. Et aujourd'hui, on pourrait dire aux chrétiens « Visez juste, visez Job ». Pourquoi pas? Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer ce matin. Une chose, c'est qu'en dehors de Jésus-Christ, aucun être humain n'a souffert ce que Job a souffert. Il a connu ce que c'était l'écrasement, la séparation, le silence de Dieu, qui était pour lui vraiment un silence infernal, qui fera qu'il dira certaines bêtises, Job malgré tout, mais pour lequel il se repentira plus tard. Et il est bon de souligner que Jésus-Christ a accepté une séparation du Père pour un temps, dans un but précis, en sachant qu'il devait passer par là pour porter nos péchés. Il a dû se charger de nos iniquités. Et il était abandonné du Père. Jésus le savait. Mais Job ne sait absolument pas ce qui lui arrive, pourquoi tout ce drame qui a marqué sa vie. D'un côté, on peut dire que Job, sans le savoir, a été le joker de Dieu dans ce combat entre Dieu et le diable. Toujours dans Job, au premier chapitre, nous continuons notre lecture, mais au verset 6, cette fois, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « Écoutez bien, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et maintenant, on va voir la subtilité diabolique du diable. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu ?» Et la subtilité, la méchanceté de cette phrase. « Ne n'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. » Le diable devait rager, mais il ne pouvait rien faire contre la bénédiction de Dieu vis-à-vis de Job. « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main sur lui. » Dieu fixe ses conditions à l'épreuve de Job. Et Satan se retira devant la face de l'Éternel, croyant déjà avoir gagné son combat contre Job. Il faut se rappeler, c'est que Job fait partie de ces héros de la foi, que nous ne retrouvons peut-être pas dans l'Épître aux Hébreux, mais des hommes qu'on doit considérer leur foi et les imiter. Alors, Job, un homme intègre et droit, car il craignait Dieu et se détournait du mal. Alors, j'ai une question personnelle à vous poser. J'attends pas une réponse, mais au fond de votre cœur, vous en aurez sûrement une. Est-ce que votre concierge parle ainsi de vous ? Ou votre collègue de travail, celui qui est un peu insupportable et de qui je parle, votre enfant, votre conjoint, votre voisin. Trois qualités surnaturelles que Dieu donne aux chrétiens, que le Seigneur a le droit d'attendre de tout croyant, d'être des hommes intègres et droits, car ils craignent Dieu, ils révèrent Dieu en se détournant du mal. Je ne peux pas dire « j'aime Dieu et faire ce que je veux ». Parce que je n'aime pas Dieu, j'aime ce que je fais, mais pas Dieu. Paul nous dit, « Savez-vous que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. » Mais c'est ce que fait Job à cette époque-là. Il ne le sait pas, mais devant Dieu, l'exhortation que Paul nous donne ce matin, Job la vivait déjà pleinement. Ce qui est particulier, vous savez, comme chrétiens évangéliques, que nous aimons donner témoignage autour de nous, et on connaît tous la difficulté du témoignage, mais ce matin, j'aimerais vous encourager par un petit texte de l'Écriture. Même si vous ne voyez pas beaucoup de résultats autour de vous, mais si vous vivez ce témoignage d'être un homme intègre et droit, qui craint Dieu et qui se détourne du mal dans toutes vos activités professionnelles, il y a une promesse de Dieu que nous trouvons dans la lettre de Pierre au premier chapitre, Pierre chapitre 2, qui dit ceci. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que la même où il médite du mal contre vous, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il les visitera. » Ma femme est arrivée hier à la retraite officielle. Excusez-moi parce que quand j'ai vu l'enregistrement, ça m'a marqué. Pendant 16 ans, elle a essayé dans son travail de témoigner autour d'elle. Elle a un accent pire que moi, elle ne peut pas cacher qu'elle est suisse-allemande, avec un humour belge parfois, pas toujours très bien compris. Et là, face aux autorités communales, le président des écoles, le président de la commune, le responsable lui a remis le cadeau traditionnel. Il a donné une petite phrase qui m'a beaucoup touché. C'est que ma femme a toujours eu le souci professionnellement, sans dire « la Bible dit » de vivre ce que la Bible disait. Et son chef de service a dit « Marianne, tu nous donnes un exemple d'une vie chrétienne que nous tous, nous devrions imiter. » Alors le soir, quand elle est rentrée, qu'elle m'a dit ça, je lui ai dit « Tu vois, maintenant il faut qu'on prie au jour que Dieu les visitera, la semence a été semée. » Que ce qu'ils ont vu un jour, ce n'est pas grand-chose, mais que Dieu, dans sa grâce, le jour qu'il les visitera. Et là, je vois qu'on a un ministère incroyable dans la prière autour de nous pour que Dieu visite ces gens qui ont été témoins. Ils pourraient dire, oh, c'est un momier, ils pourraient dire beaucoup de choses contre nous pour se moquer de nous. Mais ça a été semé. Et c'était semé sur parce que nous sommes des gens intègres et fidèles à la parole de Dieu. Vous savez que Job était un homme riche, à faire pâlir beaucoup de personnes. En Suisse, nous sommes fiers que chaque année, sur la Gemmi, à 2000 mètres d'altitude, nous avons la désalpe des moutons. Combien croyez-vous qu'il y a des moutons à la Gemmi pour la désalpe? Une fête, la télévision vient, tout le monde en parle. C'est grandiose. Enfin, pour les Valaisans, c'est grandiose comme fête. On compte à peu près 800 moutons. Job possédait 7000 brebis. Voyez l'échelle, petit ou grand troupeau. Moi, sinon, j'ai l'habitude de m'adresser à tout petit troupeau. Je suis un peu impressionné de voir autant de personnes devant moi. Convertissez le cheptel de Job en langage moderne. 500 paires de bœufs et 500 ânes. Ça fait combien de tracteurs, ça? Vous faites le calcul? Calcul 1, tracteur 4x4, haute technologie, s'en fait. Ce qui est extraordinaire quand on apprend la richesse de Job, c'est que Jésus lui-même dira « Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et Job avait 3000 chameaux. C'est extraordinaire, les miracles de Dieu. Il ne fait pas que ressusciter des morts. Il fait passer le propriétaire de 3000 chameaux par le trou d'une aiguille. Vous vous rendez compte? Maintenant, je vais m'arrêter brièvement sur son rôle de citoyen dans la cité. Et là, je ne vais pas lire un texte biblique, c'est un peu un texte où j'ai une forme de transcription que j'ai essayé de moderniser dans notre langage aujourd'hui pour être un peu compris. Donc on trouve les lignes principales au chapitre 29 de Job, mais vous n'arriverez pas à suivre. Alors je vous lis, en parlant de Job. Quand il sortait pour aller en ville, on lui préparait un siège dans la place. Les jeunes gens se retiraient à son approche. Les vieillards se levaient et se tenaient debout. Les princes arrêtaient leur discours et mettaient la main sur leur bouche. La voix des chefs se taisait. Et leur langue s'attachait à leur palais. L'oreille qui l'entendait le disait heureux. L'œil qui les voyait le rendait de lui témoignage. Car il sauvait le pauvre qui appelait du secours et l'orphelin qui manquait d'appui. Il remplissait de joie le cœur de la veuve et se revêtait de la justice et lui servait de vêtements. Il avait sa droiture pour manteau et pour turban. Il était l'œil de l'aveugle, le pied du boiteux. Il était le père des misérables. Il examinait la cause de l'inconnu ou de l'étranger. Il brisait la mâchoire de l'injuste et il arrachait ses dents à la proie. Voilà la description d'un homme intègre et juste devant Dieu, qui avait un rôle dans la cité. Quel exemple pour nous, nous avons ici en tant que citoyens? Quel beau témoignage de Job à la gloire de Dieu. Quand dans la cité, il était là, il était respecté à cause de sa fidélité, de son intégrité, de son sens de justice. 5 fois dans la lettre, dans le livre de Job, il est mentionné que 2 fois, Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Jean-Jacques? Et j'ai oublié le prénom de son épouse aujourd'hui, c'est Georgette, hein? As-tu remarqué ma servante Georgette? C'est intéressant de savoir si Dieu se pose ces questions sur chacun de nous. Bon, je les cite parce que je les connais, vous voyez, c'est pour ça. Je crois qu'il y a aussi un Matthieu dans le coin que je peux dire. As-tu remarqué mon serviteur Matthieu? Je ne prononce pas le nom de sa copine, car depuis tout à l'heure, j'ai déjà oublié. C'est mon problème. Et je ne veux pas faire une erreur au micro. Mais 2 fois à la fin du livre, ce que nous avions vu il y a quelques années en arrière, quand Dieu va juger les amis des Job, 3 fois, il va leur dire, « Avez-vous vu mon serviteur Job ?» Et à ses amis, il va dire, « Mon cœur est enflammé contre vous, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. » Et vous savez comment Job va intervenir pour intercéder pour ses amis, pour que ses amis soient pardonnés par Dieu et retrouvent leur place. Mais là aussi, nous avons toute la préfiguration de l'évangile de Jean chapitre 3. Je ne citerai pas le verset 16, mais le verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et c'est le rôle que Job, comme médiateur, va jouer pour ses 3 amis qui lui en ont fait voir de toutes les couleurs. Ministère de la préfiguration de Jésus-Christ en tant que médiateur dans le livre de Job. Maintenant, je m'adresse à Job, je vais vous montrer Job en tant que son rôle de père de famille, 10 enfants. Je ne sais pas comment il faisait avec 10 enfants, moi j'en ai eu 3 et je trouvais que j'avais de la peine à suivre le mouvement. Mais voilà, lui il avait 10 enfants. C'est les versets 4 et 5 du premier chapitre. Ses fils allaient les uns et les autres et donnaient tour à tour un festin. Et ils invitaient leurs 3 sœurs à manger et à boire avec eux. Et quand les jours du festin étaient passés, Job appelait et sanctifiait ses fils. Puis il se levait de bon matin et offrait pour chacun d'eux un holocauste. Écoutez bien. Car Job disait, peut-être mes fils ont péché et ils ont offensé Dieu dans leur cœur. Et Job agissait toujours ainsi. Et là, encore une fois, nous nous retrouvons dans le cœur de l'Évangile. L'exemple de Papa Job. Quel exemple pour nous à méditer. Moi, je suis tout gêné, tout confus. Je trouve que face à Job, j'ai beaucoup raté. En dehors des 3 chats que je vais m'occuper maintenant, mais que sinon j'ai beaucoup raté de choses. Fait, les chats c'est facile, vous leur montez un peu à manger, ils viennent tout de suite. C'est la seule façon qu'ils obéissent, mais voilà. Mais l'exemple de Job, 10 enfants. Y a-t-il des parents de 10 enfants aujourd'hui? 4 enfants, 5 enfants avant encore, mais 10 enfants à éduquer. Des enfants qui étaient des jeunes adultes dans le contexte là. Et ça me fait penser à la recommandation de Paul qu'il adresse aux anciens, pour nommer les anciens de l'Église. On dit toujours, c'est pour les anciens, c'est pas pour nous. Mais cette recommandation de Paul, je crois qu'elle s'adresse à chaque père croyant. Quand Paul dit à Timothée, en parlant des anciens, mais aussi de chaque père de famille, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et une parfaite honnêteté. Mais ce que Job faisait. Job se levait de grand matin. Ayant habité dans ces pays-là, je peux vous dire que se lever de grand matin, ce n'est pas 8 heures, ce n'est pas 6 heures, c'est 4 heures du matin. Donc, pas question après ces après-fêtes de faire la grâce matinée et d'avoir une excuse. « Oh, ce matin, ça ne va pas, tu m'excuseras auprès du Père. » Jean se levait de grand matin et offrait pour chacun d'eux une offrande à Dieu. Et c'est sûrement un sacrifice d'expiation. Quelle révérence de Job face à son Dieu. Mais aussi, quel amour de Job pour ses enfants. À une époque où on nous rafâche les oreilles, il faut que jeunesse se passe. Ils sont majeurs, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont majeurs. Ce n'était pas du tout le langage de Job. Job avait le sens aigu de la conséquence du péché. Offenser Dieu dans leur cœur. Qui d'entre nous n'offense pas Dieu dans son cœur? C'est Jésus lui-même qui dira, c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les débauches, les vols, les faux témoignages et calomnies. Je me rappelle un professeur Emmaüs qui me disait, au fond de nous-mêmes, nous avons toutes les bouches pour être des Hitler des temps modernes. Mais Dieu, dans sa grâce, a mis des barrières, mais au fond de notre cœur, il y a cela, des pensées mauvaises vis-à-vis d'un tel ou de quelqu'un d'autre. Peut-être, mes fils, ont-ils offensé Dieu dans leur cœur? C'est ainsi que Job avait l'habitude d'agir. Il est question de festin. Vous savez, un festin, j'aime les barbecues, mais c'est plus qu'un barbecue. En général, festin, ça rime avec festoyer. Il y a tous les excès qui vont avec un festin. Quand Jésus dira, excusez-moi, j'ai perdu mon texte, ah oui, voilà, prenez garde à vous-même de crainte que vos cœurs ne s'apaisantissent ou ne deviennent lourds, insensible par les excès du manger et du boire et les choses semblables. Et puis, il est parlé avec Timothée, vous savez, les jeunes, les passions de la jeunesse. L'attitude de Job comme père de famille, envers tous ses enfants, sans exception. Et je crois que cette discipline de maison qu'il avait, c'est quelque chose de génial. Et j'espère que je vais être compris. En Valais, vous savez que les Valaisans, on a une façon de conduire qui n'est pas celle des Genevois. Et en Valais, quand la police fait des contrôles radars, en général, ils nous préviennent. Ils ne disent pas les lieux, mais ils nous disent d'une telle date à une telle date, vous aurez un contrôle radar. Mais je crois que les fils, sa famille, sachant que le lendemain matin, il y aurait cette solennité du Job devant Dieu, en offrant des sacrifices, c'était comme un radar spirituel pour flasher toute idée de péché ou pour freiner leur excès. Et là, je raconte une histoire personnelle. J'avais 3 enfants. Quand ils rentraient de l'école, ils rentraient de le bus scolaire. La façon qu'ils montaient les escaliers, je savais s'ils avaient une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle à m'annoncer. En général, ceux qui avaient de bonnes nouvelles, ils rentraient en premier dans la maison. On n'arrivait pas à les taire. Et celui qui avait de mauvaises nouvelles, mauvaises notes, punitions, etc., traînait les pieds. Il prenait le temps à la salle de bain, de bien laver les mains, avant de passer à table, etc. On le savait qu'il avait quelque chose. Mais c'était un peu ce que les enfants de Job devaient ressentir avec cette éducation spirituelle qu'ils ont reçue de leur père. S'ils n'avaient rien à se reprocher, ces holocaustes ne devaient pas être pour eux quelque chose de grand, de terrible, mais un témoignage de l'amour du Père pour eux. Et combien pour ses enfants, cela devait être beau. Ah, mais aujourd'hui les jeunes qui disent souvent, nos parents ne nous aiment pas. Mais quel amour de Job quand ses enfants disent, quel amour notre Père. Il est soucieux de notre bien-être spirituel. Il ne veut pas que nous rentrons dans le confort du péché. Il veut que le péché soit vraiment banni de notre maison. Il ne veut pas, malgré que nous sommes ses enfants, que Dieu soit déshonoré sous son toit. L'honneur de Dieu, parce qu'il aimait ses enfants. Encore une fois, quel beau témoignage d'un père à cette époque-là, vis-à-vis de Dieu. Maintenant, je vais essayer de voir brièvement 6 privilèges que nous avons sur Job, que Job ne connaissait pas du tout. Nous, nous ouvrons le livre de Job, nous savons toute son histoire. Job n'avait aucune connaissance du défi dans le ciel entre Dieu et Satan. Il ne savait rien de tout ce que nous, nous savons quand nous lisons le livre de Job. Il ne savait pas que Dieu allait l'employer comme son joker. C'est, Job, tu es quelqu'un de remarquable, je te fais confiance, le diable peut dire ce qu'il veut, c'est du blabla, je sais que tu es assez costaud pour lui tenir tête. Pourtant, à cette époque-là, la révélation de Dieu était assez limitée, mais ce qui est beau, elle est suffisante pour que Job ait une image sainte, juste, de Dieu, du Dieu de majesté, du Dieu de grâce, du Dieu de puissance, du Dieu qui sauve. Quel encouragement pour les jeunes dans la foi, même s'ils ne connaissent pas très bien leur Bible, de savoir qu'une fois que Dieu a mis son esprit en nous, qu'il nous a régénérés, la source est là. Moi, je suis toujours impressionné de la couleur du Rhône chez vous à Genève. Je n'aurais pas envie d'en boire de l'eau. Quand je vois sous nos montagnes, c'est toutes ces sources, c'est beaucoup plus petit, beaucoup plus étroit, moins profond. Mais combien cette eau est riche, combien cette eau nous abreuve quand nous sommes en montagne. C'est là qu'on voit la pollution de l'homme. Job n'avait aucun livre biblique à méditer. Ce soir, je vais lire le psaume 23 ou le psaume 103, comme on a vu ce matin. Il n'avait rien de tout ça. Il ne connaissait pas toute la liste des héros, il ne connaissait pas les patriarches, il ne connaissait pas les prophètes. Vous avez le texte aux Hébreux, chapitre 11. Nous donc, ce qui nous rend responsables, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, comme Job l'a fait, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, comme Job l'a fait. Il n'avait pas la connaissance de ce Dieu qui allait se révéler par Jésus-Christ. Il n'était pas au bénéfice du tout accompli à la croix par le Christ. Et pourtant, il a tenu bon dans l'épreuve. Et ce qui est extraordinaire dans Job, il a eu des moments de découragement. Il faut le reconnaître. N'ayons pas peur. Ne faisons pas de Job une star évangélique. Pas du tout. C'est un homme comme nous, de la même nature que nous. Moi, ce qui m'émerveille toujours sous chapitre 19, c'est quand il est vraiment découragé, il est au fond du trou, il aimerait avoir un burin, une pierre pour graver une parole éternelle qui devrait durer d'un côté, hein, un burin, une pierre. Est-ce que vous vous rappelez ce qu'il a gravé ce jour-là, Job? Je vais vous le lire, c'est dans Job 19, 25. « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Et quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu, je le verrai, il me sera favorable, mes yeux le verront et mon cœur, et pas le cœur d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Mais entre le prendre le burin, vouloir tailler, puis l'inspiration de Dieu, ce que Job nous a laissé. Quel témoignage pour nous. Voyons maintenant Job dans un autre domaine. C'est que Job, ce matin, il y a un peu John Glass qui m'a recommandé, mais il ne me connaît pas beaucoup, on se connaît, mais pas plus que ça d'un côté. Mais j'aimerais d'un côté vous dire comment Job a été recommandé par Dieu lui-même. Quand Dieu a vu Satan, il lui a dit, « As-tu remarquez mon serviteur Job, il n'y a personne comme lui sur la terre. » Et puis vous connaissez la suite. Il demeure ferme dans son intégrité. Mais là aussi, c'est une autre façon que Paul dira dans 2 Corinthiens quand il nous dit, « Car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » Job a été un homme recommandé par Dieu devant le pire des ennemis que nous puissions avoir, le diable. D'un côté, Job faisait la fierté de Dieu. Dans ce livre, nous avons aussi une définition du diable. je ne vais pas trop m'arrêter de lui. On n'a qu'à aller dans nos rues et voir ce que le diable est capable de faire. Combien d'un côté il est cruel, rusé, séducteur, accusateur, et on pourrait rajouter noncliste. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus du diable, c'est comment il est ingénieux dans le mal. Et venant du Valais, vous savez que les Valaisans ont une réputation d'être des gens un peu fraudeurs sur les bords. Oui, ce que je veux dire. Vous avez vu les dernières lois quand ils votaient en Suisse, la réaction des Valaisans, d'un côté. Mais le diable est pire que ça. Ils sont des anges, les Valaisans, comparés au diable. Le diable ne vient que pour dérober, tuer, détruire, alors que les Valaisans, c'est pour garder leur patrimoine. Et je le vis en Valais, ils vendent un terrain, qu'ils vendent très cher, terrain agricole, qu'ils vendent en terrain en construction. Le prix a augmenté 15 fois, et malgré que le terrain est vendu, il est toujours à eux, ils trouvent toujours une excuse pour dire « c'est à moi, je dois faire ceci, je dois faire cela, pourquoi ceci, pourquoi cela ?» C'est l'esprit du patrimoine du terrain. On a vu combien le diable méprise Dieu quand il lui dit « est-ce de manière désintéressée que Job craint Dieu ?»« Ne l'as-tu pas protégé, lui et sa maison, tout ce qui est à lui ?» Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais ça, c'est l'humour de Dieu. Moi, je crois à l'amour de Dieu, mais j'aime aussi l'humour de Dieu. C'est que le diable devait confesser qu'il était nul devant Dieu. Que si Dieu avait envie de bénir Job, il le bénissait, même si ça ne plaisait pas au diable et il ne pouvait rien faire. Bien sûr, le diable, hein, c'est des pots de vin. Si finalement Job l'a fait, c'est parce que tu l'as payé pour ça, 50-50, c'est pas du tout ça. Mais cette perfidie de Job, je suis sûr qu'il te maudira. Encore une fois de plus, le diable va perdre. Au chapitre 1er, verset 12, l'Éternel dit à Satan, voici, c'est que Job a été éprouvé une première fois, où le diable n'a pas pu toucher à sa vie, mais à ses biens, quatre drames qui vont se suivre les uns après les autres, que je vais essayer de résumer. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre, seulement ne porte pas la main contre lui. Le diable pourra tout faire, sauf porter la main contre Job. Et vous savez, les quatre drames que Job va connaître. Il va se retrouver comme un boxeur qui est groggy dans son coin, il ramasse un coup, il n'a pas encore digéré le coup, il y a un deuxième coup qui arrive, un troisième coup qui arrive, puis quatrième coup, le coup fatal, où finalement on lui annonce que ses 10 enfants sont morts et tués. Quel drame pour un père qui aimait ses enfants, qui protégeait ses enfants, d'apprendre cela. Il est groggy. Alors le diable, maintenant, cette fois-ci, il est dans son coin. Il ne peut que s'écrouler, Job. Non, Job ne va pas s'écrouler. Il tient bon. Pourquoi? Parce qu'il craignait son Dieu et qu'il était un homme intègre. Mais il va quand même se lever, Job. Non pour dire, j'abandonne le combat maintenant, d'accord. C'est pas pour dire ça. Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, qui est un signe dans ces pays, un signe d'une profonde affliction, de deuil. C'est toujours maintenant en Israël, quand on voit quelqu'un qui a une barre de quelques jours, on peut dire, tiens, celui-là, il a un deuil dans sa famille. C'est une façon toujours, dans ces pays-là, de montrer son deuil, d'être habillé avec une certaine légèreté, de ne pas changer sa chemise du samedi, on la retrouve le vendredi. Elle n'a plus la même odeur, mais c'est comme ça, c'est un signe de deuil. Mais Job va continuer, il va se jeter par terre. Oh non, il se prosterna, Job 21-22, premier chapitre. Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Puis à la suite, en tout cela, malgré ce match de boxe où il a été bien éprouvé, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Avez-vous déjà réalisé dans votre vie de tous les jours le nombre de fois que vous attribuez des choses sans vous en rendre bien compte, très souvent des choses injustes à Dieu, et souvent pour des peccadilles? Pour cet après-midi, le barbecue, oh Seigneur, tu aurais pu nous donner un autre temps que celui-là, hein? On attribue à Dieu une chose injuste. Seigneur, on sait que tu es puissant. Dieu n'attribue à rien. Et pourtant, ce n'est pas des peccadilles dans ces tribulations-là. Il n'attribue à rien d'injuste à Dieu. Quelle leçon pour nous aujourd'hui quand nous parlons de la grâce de Dieu. Et là encore, nous pouvons tirer un parallèle avec la tentation du Seigneur. C'est quand Jésus a été tenté au désert, il nous a dit que le diable a attendu une nouvelle occasion pour le tenter, et cette occasion sera Gethsémané. Mais Job va aussi, ici, cette épreuve, le diable revient à la charge devant Dieu, où cette fois-ci, il va dire « peau pour peau ». Oui, tu as protégé son corps, maintenant je veux tout, peau pour peau. Mais Dieu va lui dire, oui, peau pour peau, mais tu ne toucheras pas à sa vie. Il demeura ferme dans son intégrité. Et cela me fait penser à ces textes de l'Écriture qui nous montrent l'amour de Dieu, même quand nous sommes dans l'épreuve. Ce que tu as fait au plus petit de mes frères, c'est à moi que tu l'as fait. Celui qui vous touche, touche à la prunelle de l'œil de l'Éternel. C'est comme quand Dieu a permis que son Fils soit crucifié pour nous. C'est une souffrance pour le Père. Et je crois qu'ici, c'est une souffrance terrible pour Dieu de donner son joker dans les mains du diable. Et c'est là qu'il y a cette cinquième épreuve qui attend Job. Voici, je te le livre. Dieu met encore ses conditions, seulement épargne sa vie. Épargne sa vie. Alors le diable va frapper Job d'un ulcère malin. Et ce mot, dans le texte original, on peut le traduire de différentes traductions, de différentes façons. Un ulcère de méchanceté, un ulcère de férocité, un ulcère de calamité. Ce n'est pas un petit ulcère qu'on a sur un bras, sur un genou, sur une jambe. On va voir ce que nous dit l'Écriture. S'il était frappé de la tête aux pieds, Job, par ce ulcère, une plaie béante depuis la plante des pieds jusqu'au sommet de la tête. Et dans tout au long du livre, nous avons différentes descriptions comme des flashs nous décrivant Job. Job n'était pas beau à regarder ni à sentir. Il était un pestiféré par ce qui se dégageait de lui. Et ici, j'ai rassemblé certaines expressions qu'on retrouve dans Job, où il parle de son malheur. Son corps est couvert de vermine, de vers et d'une croûte terreuse. Sa peau est crevassée et se décompose. Son corps est plein de plaies purulentes. Son haleine est répugnante. Il est gagné par l'insomnie et fait des cauchemars. Il est devenu squelettique, méconnaissant pour ses amis. Et puis vous avez le remède de Job. Job prit un tesson pour se gratter, pour calmer la douleur par une autre douleur. Le diable, dans sa méchanceté, il est allé le plus loin qu'il lui était possible de faire. Mais il n'a pas pu atteindre à sa vie. Le diable, dans sa violence, dans sa haine, on n'a pas de la peine à le comprendre. Et maintenant, j'aimerais parler d'un sixième point, qui pour moi, à l'heure actuelle, est un point qui est très important. C'est le rôle de Job comme époux. À une heure où de nombreux couples, même chrétiens, sont en crise, je crois que dans l'exemple de Job, nous avons beaucoup de choses à apprendre pour faire face à la crise et résister à ces crises qui sont une réalité. Actuellement, dans l'Église, il y a un couple qui est en train de se déchirer, de se séparer. Un a demandé le divorce. Alors, ils s'accusent mutuellement. Lui n'est pas chrétien, elle n'est pas chrétienne. C'est facile, ce genre de remède. Donc, Job, qui est frappé cruellement par les quatre épreuves où il a perdu tous ses chameaux, tous ses ânes, toutes ses brebis, tous ses enfants, tous ses biens, tous ses serviteurs. Job qui est devenu méconnaissable par cette maladie qui le frappe, cet ulcère malin. Là, il nous semble que Job trouve dans son foyer un foyer. Et vous allez voir comment le diable est cruel. Il est là, Job, dans l'intimité de son foyer, auprès de sa chère épouse, la mère de ses 10 enfants, que de larmes ont dû être versées dans ce couple, dans cette famille, de se retrouver ainsi. Cette épouse qui est à côté de lui, qui, dans un premier temps, paraît une épouse exemplaire d'un côté, et nous avons ça au chapitre 2, au verset 9, où d'un côté, sa femme loue un peu son mari. Elle lui dit, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité. » D'un côté, sa femme le complimente, dit, mais mon mari, c'est un homme extraordinaire. Comment peut-il rester aussi ferme avec tout ce qui lui arrive ?» Et combien cela devait faire quand même du bien au cœur de Job. Il me reste quelqu'un, la mère de mes enfants qui est là. Et je peux me détendre dans mon foyer. Elle me comprend. Elle est à côté de moi. Je n'ai pas tout perdu. Il me reste mon épouse. Et le compliment qu'elle dit à Job, il est juste. Tu demeures ferme dans ton intégrité. Ce n'est pas une flatterie gratuite. C'est une réalité. Et c'est dans ce coco familial où tous, nous sommes tous les mêmes. D'un côté, nous pouvons nous relâcher facilement parce que nous sommes chez nous, dans nos meubles, dans nos habitudes, que le génie du mal va finalement essayer de piéger Job par sa femme, par ses paroles terribles. Maudit Dieu et meurt. Ouh là là. Quand Job a entendu ces paroles, quelle horreur pour lui. Quelle épreuve terrible pour lui. Piège dans lequel Job ne va pas succomber, malgré son état psychique, son état physique, son moral déplorable, ses pertes économiques qui se retrouvent nues comme un ver. Mais aussi, quel coup de poignard dans le dos pour Job, venant de son épouse. Mais est-ce que vous réalisez que si à ce moment-là, Job avait succombé finalement, non, je n'en peux plus, des coups du diable, j'ai une tête à claque, j'accepte. Mais un coup pareil de ma femme, c'est inacceptable. Si Job avait succombé à ce moment-là, le diable aurait gagné. Il aurait eu le dernier mot. Et dans la Bible, nous avons beaucoup de récits d'hommes qui ont perdu ce combat-là face à leur épouse. Rappelez-vous en Éden, Adam et Ève, David avec Bathsheba, Samson avec Dalida. Le diable connaît les faiblesses de l'homme. Mais combien une fois de plus, la façon que Job va répondre à son épouse, combien Job est déjà imprégné de l'Évangile. La réponse de Job à sa femme, il ne va pas dire à sa femme, tu es folle, tu es une femme insensée. Il ne lui dira pas ça. Mais au profond de sa détresse, Job aura cette nuance de l'Évangile. Une nuance qui est très importante ici et qui est une recette dans la vie de couple. Il ne dit pas, tu es folle, tu es insensée, tu es ceci, tu es cela. Il dit, tu parles comme une femme insensée. Vous voyez la nuance? Dans l'épreuve de Job, tu parles comme, il n'insulte pas, comme, hein, comme, tu es aussi fort, tu es fort comme un cheval. Si on me dit ça, je suis flatté. Si on me dit, ben, tu es comme un âne, je suis blessé. Non, comme, tu n'es pas, tu es comme une femme insensée. Et là, nous avons le texte de l'Évangile où Jésus dit, celui qui dira à son frère insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. Mais Job n'a pas succombé. Tu es comme une femme insensée. Quel exemple d'époux nous avons ici. Alors qu'il aurait tout pour dire à sa femme, c'est « Je suis à bout, je suis à bout, je suis à bout. » Un autre texte pour les époux, pour nous aider. Moi aussi, je suis époux. « Marie, montez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec votre femme comme étant un sexe plus faible. On aurait là, comme devant, aussi hérité avec vous de la grâce de la vie. » C'est ainsi que Job a vu sa femme ce jour-là. Il n'a pas vu d'égal à égal, coup de poing contre coup de poing. Ou, excusez-moi l'expression, ah non, je suis enregistré, je ne veux pas le dire. Hein? Vous voyez ce que je veux dire? Combien d'excuses d'époux aujourd'hui sont superficielles pour justifier une attitude qui est plus machiste que chrétienne, très souvent. Nos excuses bidons. Combien l'exemple de Job est édifiant pour nous? En tout cela, verset 10, Job ne pécha point par ses lèvres. Et c'est ce texte de l'Évangile. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Son corps était répugnant à regarder. On se détournait de Job, mais du fond de son cœur. En tout cela, Job ne pécha point de ses lèvres. Et Job nous montre combien nous pouvons compter encore aujourd'hui sur ce Dieu éternel qui nous accompagne. Dieu n'est pas un urgentiste qui est dépassé par l'imprévu. Vous savez qu'il n'a pas si longtemps, en Valais, nous avons connu un drame horrible dans cet accident de car. Et vu que le Valais, nous restons un gros village, toute la population était concernée par cet accident, car on connaît quelqu'un qui a dû être là pour les secours. Mon médecin traitant a dû être là, le médecin traitant de ma femme a dû être là, des copines, des infirmières, etc. Et ce qui était terrible, c'est chez ces gens-là, on a loué ces urgentistes, ils ont fait le maximum. Et la bouche des urgentistes, devant ces drames qui étaient là, on était dépassés par la situation. On ne savait pas où mettre la première urgence pour essayer de sauver quelqu'un. C'est tellement, ce qu'on voyait était tellement horrible. Suite à cet accident, plusieurs urgentistes sont toujours en traitement. Ils n'ont pas pu supporter ce qu'ils ont vu. J'ai connu personnellement un urgentiste qui est arrivé à sortir un enfant du bus qui semblait qu'il n'avait que des fractures aux jambes. Ils l'ont mis dans l'ambulance, sorti du tunnel, le mettre dans l'hélicoptère, et toujours avant de le mettre dans l'hélicoptère, d'ailleurs, le dernier contrôle médical, il réalise qu'il était mort. Dans le bus, compressé, son corps vivait. Une fois qu'il était délivré, ou libéré de tout ce qui l'environnait, son corps n'a pas pu. À l'intérieur, il était complètement déchiré. Mais Dieu n'est pas ça! Dieu n'est pas un urgentiste, on doit bien se rappeler, il tient le monde dans ses mains. Je me rappelle, dans le temps, on avait un chœur qui disait, Dieu tient le monde dans ses mains comme une bille de verre. Il tient le monde dans ses mains. Mais c'est cela, notre Dieu. Oula. Tu m'as dit midi et demi, hein, plus tard. Alors, conclusion, malgré tout. Hein. Est-ce que vous réalisez les avantages que nous avons comparés à Job? Job était de la même nature que nous, avec un peu plus d'argent que nous, un peu plus d'enfants que nous, mais un homme de la même nature que nous. Comme chrétien régénéré, qui avons rencontré Jésus-Christ, nous avons le même Esprit de Dieu en nous. Et pour chaque chrétien, quelle que soit son intensité de ses épreuves, Dieu se révèle à lui et lui donne ce qu'il a besoin. Vous savez, le problème des chrétiens et des chrétiens suisses aujourd'hui, quand ils prient, Seigneur, ils ne disent pas, Seigneur, donne-nous le pain de ce jour. Ils disent, Seigneur, donne-nous le pain pour demain, après-demain, remplis le frigo, il y a aussi le congélateur. Mais ce n'est pas ça la vie chrétienne. Seigneur, donne-nous aujourd'hui ce que j'ai besoin. Et le sac à dos est beaucoup plus léger à porter, je peux vous dire. Et je terminerai par une parole que Job aurait pu dire, mais que Paul dira de Romains 8, et que vous devez connaître par cœur. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénouement, le danger ou l'épée? Et la réponse, non, rien. Et un peu plus loin, Paul continue, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Et Amen, Seigneur.